Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question Politique au terme d'une semaine où les Républicains tournaient une page de leur histoire avec la retraite politique d'Alain Juppé. Nous voulions entendre l'un des hommes forts de la nouvelle droite, une droite forte, celle que porte Laurent Wauquiez, une droite qui veut parler à la droite, mais qui se trouve face à des enjeux majeurs. Comment parler à la France tout entière? Comment incarner l'alternance à Emmanuel Macron? Je retrouverai ma voix pour poser ces questions au député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui vient de s'installer dans le studio de Questions Politiques. Vos questions, vos remarques sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques, Jeff Wittemberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Beaucoup de questions à vous poser Éric Ciotti, mais on va évidemment commencer par cette image, ces images qui nous ont tous choqués, la vidéo de cette agression antisémite dont a été l'objet Alain Finkielkraut hier dans le 14e arrondissement de Paris. Alain Finkielkraut insulté, sifflé, il ne portera pas plainte, a-t-il déclaré. Est-ce que vous le comprenez? Et au-delà, comment analysez-vous ce qui s'est passé dans la rue de Paris hier, dans les rues de Paris?
Ce qui s'est passé est une abomination, parce que derrière l'attaque individuelle contre Alain Finkielkraut, il y a naturellement une volonté très claire d'exprimer un antisémitisme insupportable que nous devons tous condamner avec beaucoup de force. Au-delà de cette attaque, c'est un climat qui devient détestable. Ce sont des actes, ce sont des paroles qui se multiplient. Nous avons vu la montée des actes antisémites l'année dernière, plus 74%. C'est énorme et il faut réagir. Il faut réagir aujourd'hui.
Pourquoi? Comment on en est arrivé là,
Jeff?
En fait,
on est arrivé là parce que je crois qu'il y a la convergence d'un antisémitisme classique, celui qui vient de l'extrême droite, qui malheureusement est un courant infiniment minoritaire, mais qui a existé de façon contemporaine ou beaucoup plus ancienne dans notre pays. Et puis, de façon plus récente, il y a un antisémitisme d'extrême gauche, un antisémitisme qui vient aussi sur fond d'islamisme. Il faut le dire, il faut citer ces mots. Et je sens que certains ont des pudeurs à évoquer ces sujets, à évoquer ces causes.
Si on veut s'attaquer... Pour en rester au cas d'Alain Finkielkraut, hier, il disait, je le cite ce matin dans Le Parisien, c'est un groupe de gens politiquement difficilement situables, dit Alain Finkielkraut, un mélange de gens de banlieue, de l'extrême gauche et peut-être aussi des soraliens.
C'est ça, c'est ce mélange, c'est ce que je vous disais à l'instant, mais... c'est deux sources de l'antisémitisme qu'il faut combattre et qu'il faut dénoncer, alors, et au-delà des mots avec des actes.
Précisément, Jeff, quelle est la source pour vous la plus importante? Je vous ai écouté il y a quelques jours, vous avez dit, et vous le répétez ce matin, que la montée de l'antisémitisme était essentiellement causée par le communautarisme islamique, et vous avez même affirmé, je vous cite, qu'il n'y avait plus d'enfants juifs dans les écoles de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous maintenez cette affirmation qui est contestée notamment par des associations de parents d'élèves?
Éric Ciotti.
Aujourd'hui, on voit bien que dans certains territoires de la République, il est difficile, il est même quasi impossible pour un juif de continuer à exprimer ce qu'il est, à exprimer ne serait-ce que le port d'une kippa aujourd'hui dans la rue ou dans un amphithéâtre, dans certains établissements, est extraordinairement difficile.
Mais ce que vous avez dit, elle va plus loin. Vous avez dit, il n'y a pas d'enfants juifs dans les écoles de Seine-Saint-Denis. La religion n'est pas mentionnée, notamment dans les établissements scolaires.
Dans les écoles publiques. Dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, il n'y a quasiment plus aujourd'hui, quasiment plus d'enfants juifs.
Vous appuyez sur quoi?
C'est des études qui ont été faites, des mises en garde. Le CRIF l'a évoqué récemment. On voit bien qu'il y a aussi des juifs qui quittent certains arrondissements de Paris aussi.
Mais quand on s'inscrit dans une école, on ne donne pas sa confession religieuse. Paris. Oui, c'est ça qui me surprend. Comment vous savez?
Là, on est dans le politiquement correct, en disant naturellement, il n'y a pas de statistiques ethniques, religieuse, naturellement. Mais il y a une pression qui s'exerce. Il y a une pression communautariste qui est là. Il y a une pression communautariste islamiste qui fait qu'il y a la haine. On a validé il y a quelques années en disant attention, l'antisionisme, ce n'est pas l'antisémitisme. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a convergence. Ceux qui attaquaient hier Alain Finkielkraut, ils le traitaient de sioniste, mais c'était un acte antisémite. Il faut bien voir et associer ces deux faits. Il faut avoir le courage de le dire. La montée du communautarisme islamiste, cet islamo-gauchisme qui existe, que certains ont dénoncé. Je pense notamment à Manuel Valls. Avec beaucoup de courage, il faut le dénoncer sur la Seine-Saint-Denis. Je vous renvoie à un rapport édifiant de mon collègue François Cornu-Gentil qui a décrit la situation aujourd'hui extrêmement préoccupante de ce département, dont on ne connaît pas notamment la population exacte, dont on ne connaît pas le nombre d'étrangers en situation irrégulière, où l'on voit que la République recule sur fond de communautarisme.
Est-ce qu'on peut lutter contre l'antisémitisme en finalement montrant du doigt, en stigmatisant une autre communauté?
Ça ne paraît pas sérieux, en fait. Lutter contre ceux qui portent l'antisémitisme.
Est-ce que ceux qui n'exonéraient pas un peu facilement l'extrême droite aussi? Parce que là, vous mettez en cause l'islamo-gauchisme. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un fond de l'air très mauvais en France qui est, quel que soit le bord politique, une montée quand même très forte de l'antisémitisme?
Vous avez entendu mon propos au début. J'ai dit qu'il y a deux sources d'antisémitisme. Il y a cette source traditionnelle de l'extrême droite, celle que Alain Finkielkraut décrivait en disant les Soraliens ce matin dans Le Parisien. Et naturellement, il a raison. Et cet antisémitisme plus récent, qui vient de l'extrême gauche et qui vient aujourd'hui de la montée de l'islamisme.
Alors concrètement,
en France.
Comment on
Donc,
fait
Donc ces deux sources de l'islamisme, de l'antisémitisme, doivent être combattues avec la même force. Et il faut décrire les mots.
Alors, vous
il
allez
faut
nous
pas
dire
masquer,
comment
il faut pas Ciotti. Masquer aussi cette partie avec une forme de politiquement
correct. Éric Ciotti, la question est extrêmement difficile et Françoise l'a posée à l'instant, cette question. Quels seraient les moyens les plus sûrs de faire reculer l'antisémitisme, si c'est possible?
Aujourd'hui, c'est des condamnations judiciaires fortes, exemplaires, dissuasives. J'ai entendu la garde.
Je vous pose la question justement parce que je reprends ma première question. Alain Finkielkraut a dit qu'il n'allait pas porter plainte.
Mais le parquet s'est saisi.
Le parquet s'est saisi. Et j'espère que l'action publique permettra de.
Il dit, je sais toujours, il ne faut pas trop en faire non plus. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont été plus traumatisés que moi et que les images leur ont fait plus peur qu'à moi.
Disons que sa réaction est toute à son honneur. C'est un homme qui porte une pensée, des convictions. Mais je crois que la République, l'État, la puissance publique ne peut pas laisser passer ça. C'est pas simplement Alain Finkielkraut qui est en cause. C'est la République qui est attaquée. C'est notre capacité à tolérer aujourd'hui des expressions différentes sur le territoire national. Cette haine, elle n'a pas
Alors
sa place.
Alors comment faire ?
Elle doit être sanctionnée. Eh bien, il y a aussi des vecteurs qui ont permis cette montée. Je pense à la haine sur les réseaux sociaux. Une réponse, l'Allemagne, par exemple, a fait adopter un texte de loi qui est beaucoup plus contraignant pour les plateformes Internet, pour les réseaux sociaux, en disant que si dans les 24 heures, un message de haine n'est pas supprimé sur une plateforme...
Mais là, ce sont des insultes dans la rue, à visage découvert.
Oui, mais c'est une problématique générale. Il y a 50 millions d'euros d'amende. Ça a été extrêmement dissuasif. Il faut aussi que cette forme aujourd'hui de déversoir de haine qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux soit plus sanctionnée. On a été impuissants. Il n'y a pas de poursuite quand il y a un tweet antisémite. Il est banalisé. La justice le banalise. Il y a des propos qui sont tenus qui ne sont jamais sanctionnés. Donc, on ne peut pas tolérer. Là, on a confondu espace de liberté, mais aussi expression qui porte atteinte à la liberté. Ensuite, il y a un débat sur ce qui sanctionne l'antisémitisme, le vecteur juridique. On sanctionne notamment sur la loi de 1881, sur la presse. Est-ce qu'il ne faut pas... Des avocats pénalistes ont proposé des solutions là-dessus. Je pense à Maître Francis Piner cette semaine en disant qu'il faut peut-être qu'il y ait un délit plus spécifique sur l'antisémitisme.
Donc, vous avez une proposition de loi Ciotti sur le sujet.
Pas forcément, mais au-delà, je dis qu'il faut que la justice soit beaucoup plus ferme là-dessus. La garde des Sceaux nous dit, on va réactiver les magistrats référents dans les parquets. Oui, mais ils existent déjà, si ce n'est que malheureusement, leur action a été quasiment inutile.
Elle propose aussi une plus forte publicité des décisions judiciaires contre justement les actes racistes ou antisémites, c'est bien ça ou pas ?
Au-delà de la publicité, je pense que la nécessité, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Il faut qu'il y ait une responsabilisation aussi de l'autorité judiciaire pour plus et mieux sanctionner ces faits.
Vous avez dit qu'il ne fallait pas d'hypocrisie ni de langue de bois sur le communautarisme islamique. Est-ce qu'il n'en faut pas non plus sur ce qui se passe aujourd'hui ? Ce débordement antisémite, il a eu lieu à l'occasion d'une manifestation des Gilets jaunes et ce n'est pas le premier. Est-ce que ce n'est pas un vecteur, ce mouvement des Gilets jaunes, à ces phénomènes qu'on observe ? Je rappelle que c'est un mouvement, les Gilets jaunes, que vous souteniez en tout cas. Est-ce que ce mouvement doit continuer ?
Éric Sédé.
Un mot peut-être sur le mouvement des Gilets jaunes, parce que vous avez raison de dire j'ai soutenu ce mouvement. Qu'est-ce que j'ai soutenu ? J'ai soutenu l'expression d'une colère qui vient de loin et qui a été attisée par des décisions plus récentes. Une colère, une révolte contre ce trop-plein de fiscalité, d'impôts, contre quelque part une injustice fiscale et une inefficacité économique. Une politique que les Français ont reçue comme injuste pour eux, parce qu'ils avaient le sentiment, notamment les plus faibles, que c'était toujours les mêmes qui étaient mis à contribution, et une politique inefficace, quand on voit le chômage toujours plus élevé, le pouvoir d'achat qui baisse. Et maintenant, donc au départ, ce mouvement, d'ailleurs, il était soutenu par près des deux tiers des Français, plus des deux tiers des Français. Je l'ai soutenu parce que depuis des années, je dénonce ce ras-le-bol fiscal, cette pression
c'était
fiscale.
C'était il y a 14 semaines,
cet assommoir fiscal,
et aujourd'hui.
Comme beaucoup. Ce mouvement, il a été dévoyé. Il a été dévoyé par la violence. Les chiffres sont terrifiants. 1400 représentants des forces de l'ordre blessés, plus de 2000 manifestants blessés, ça veut dire 3500 blessés, 11 morts. On n'a jamais eu un tel bilan en France métropolitaine depuis la guerre d'Algérie.
Donc depuis le 1er décembre,
il y a eu de la violence. Cette violence, elle est insupportable, inacceptable, et il faut aujourd'hui qu'elle s'arrête. On ne peut plus laisser tolérer ça. Il y a cette violence physique, il y a cette violence tout aussi condamnable, cette violence verbale qui s'exprime notamment par l'antisémitisme.
Elle vient des Gilets jaunes ou elle vient d'autres...
Elle vient pas du mouvement global des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, il est encore soutenu par une moitié des Français. On peut pas dire qu'une moitié des Français soit antisémite.
Moi, Éric Ciotti.
Voilà. Au-delà de l'exposé, quelle est votre position aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je dis que ce mouvement doit arrêter ces blocages, ces manifestations. Il y a des voies de revendication. Depuis très longtemps, vous savez, les Républicains l'ont dit, c'était avant Noël. Laurent Wauquiez l'a dit, il a appelé à l'arrêt des manifestations.
Trop pédalage, parce qu'il était sur les barricades avec un gilet jaune au début.
Mais bien sûr, mais moi aussi, le 17 novembre, et je le revendique pour dire... Arrêtons le matraquage fiscal des Français. Arrêtons d'être le pays au monde où nous payons le plus d'impôts et de charges. Et ça, je crois que tout le monde peut se retrouver dans ce discours. Pour autant, maintenant, 14 samedis de violence, c'est beaucoup, c'est trop. Nous avions demandé une mesure. C'était l'état d'urgence. Moi, je le dis.
On veut juste comprendre, Éric
Ciotti. Aujourd'hui,
avant d'en
arriver
là. Avant d'en arriver là.
Pour samedi prochain, moi, je demande qu'on interdise les manifestations samedi prochain. Et on avait un outil.
Elles sont déjà interdites.
On avait.
Pour la plupart.
Non. Elles sont pas autorisées.
Quand elles sont déclarées.
Il y en a qui sont déclarées. Il y en a qui sont déclarées. Moi, je dis maintenant, il faut arrêter. Il y a des espaces de débat, il y a des espaces de dialogue. On ne peut plus rester dans cette situation où on met à contribution, sous pression,
mais
des policiers,
des commerçants. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la situation de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire une partie du monde politique qui a attisé le mouvement pour finalement se rendre compte que le mouvement se retournait, y compris contre vous.
Donc, non, parce que
est-ce que ce n'est pas une faute de jugement au départ ?
Le mouvement, il a complètement changé. Le regard des Français aussi aujourd'hui, on voit l'évolution de ceux qui soutiennent ce mouvement. Encore une fois, au départ, il y a des revendications légitimes et il ne faut pas les caricaturer. Ne faut pas les mépriser parce qu'autrement, on va avoir des lendemains qui vont déchanter si on méprise cette colère des Français, ce sentiment que certains ont été méprisés. Président de la République lui-même, vous dites ceux qui ont accusé
on va y venir.
Mais
on
par ses paroles, par ses comportements, par son incapacité.
Ce qu'on a compris, c'est que vous les souteniez et que vous ne les soutenez plus.
Beaucoup attisé les Français.
Et que la bascule s'est faite autour
du
1er décembre.
Bah, moi, ce que je ne soutiens naturellement, ce que nous n'avons jamais soutenu, c'est la violence. Et nous l'avons toujours condamnée. Aujourd'hui, cette violence, elle doit s'arrêter. Il y a une loi anti-casseurs, mais qui malheureusement ne sera pas promulguée avant plusieurs semaines, malgré que nous l'ayons soutenue à l'Assemblée nationale. Ça, nous l'avions dit aussi. C'est pour ça qu'au début, nous avons dit, prenons la mesure d'état d'urgence qui donne des outils de police administrative pour mieux contrôler les casseurs et pour mieux interdire certaines formes de manifestations.
Est-ce que malgré tout, ce mouvement des Gilets jaunes que vous voulez interdire maintenant, est-ce qu'il n'est pas quand même un petit peu nécessaire, ça peut paraître provocateur ce que je vais dire, mais pour maintenir la pression sur le grand débat national, est-ce que les manifestations du samedi ne sont pas importantes?
Je n'ai pas dit que je voulais interdire le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, les manifestations
du samedi. C'est ce que vous avez dit.
Non,
les manifestations. Le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des gens avec des Gilets jaunes qui manifestent.
Les manifestations, il y a d'autres formes de revendications. J'ai dit que samedi prochain,
qu'on s'entende.
Samedi prochain,
le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des gens qui portent des Gilets jaunes et qui défilent dans la rue ou sur les ronds-points.
Je souhaite qu'il n'y ait plus de manifestations.
Donc plus de Gilets jaunes dans la rue ou sur l'espace public.
Après, les Gilets jaunes, ils peuvent se retrouver dans des salles, dans des espaces, ils peuvent organiser des meetings, ils peuvent organiser des réunions contrôlées, sécurisées. Mais ces manifestations aujourd'hui qui sèment la violence et des propos de haine sur les cortèges
ne permettent pas d'être.
Il y a le grand débat, donc que ceux qui veulent exprimer leur voix dans ce grand débat le fassent. Mais justement, c'est le moyen de s'exprimer.
L'un des effets collatéraux de cette crise des Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu une crise diplomatique franco-italienne. Vous avez dit, vous, qu'il y avait eu des provocateurs de part et d'autre. Or, Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles, il est venu rencontrer la semaine dernière une délégation de Gilets jaunes avec à sa tête Monsieur Christophe Charançon qui prévoit, on le sait, un renversement du pouvoir par des groupes paramilitaires, la guillotine pour le chef de l'État. Est-ce qu'après ça, vous mettez toujours sur le même plan les provocateurs, Monsieur Macron d'un côté et Monsieur Di Maio de l'autre?
Il y a eu des provocations des deux côtés.
C'est la même chose pour vous.
Je condamne avec beaucoup de force cette rencontre qui était inopportune. Comme je l'ai dit à l'époque, et cela date de quelques mois, quand le président de la République française parle du pouvoir italien démocratiquement élu, on peut en penser ce qu'on veut, je ne porte pas de jugement sur ce pouvoir de lèpre. C'est aussi.
Il a parlé de lèpre nationaliste sans parler précisément d'Italie.
Oui, mais enfin, ça s'adressait, vous le savez très clairement, ça s'adressait à l'Italie. Donc il y a une forme de provocation. Je crois que nos deux pays doivent retrouver le chemin d'un respect. Et je le dis, Emmanuel Macron, et ça revient aussi au débat sur les Gilets jaunes, a souvent eu une attitude provocatrice.
Donc vous dites il l'a bien cherché.
Jeff, on va rester en France, même si c'est tentant de parler d'Italie, puisque Éric Ciotti est frontalier, mais on parlera d'Europe tout à l'heure.
Mais il a eu beaucoup de paroles inadaptées. En Europe, on n'a pas besoin de créer, d'installer ces clivages entre nationalistes et progressistes, entre ceux
alors
qui
restons,
porteraient
restons
cette
lettre. Restons en France, Éric Ciotti,
quand
on
est chef de l'État
à
français, on a une responsabilité en Europe et on n'utilise pas ces mots.
Est-ce que vous engagez aujourd'hui tout le monde, et notamment tous les Républicains, à s'investir dans le grand débat national?
Moi, le grand débat...
C'est la conclusion logique de ce que vous entendez dire à propos des Gilets jaunes.
Oui, mais ce grand débat, j'ai l'impression qu'il est en train de tourner en grand palabre.
Ciotti.
Oui, mais vous mettez votre énergie pour essayer de faire en sorte que ça marche ou pas du tout, en fait, c'est ça la question.
Bah, moi, ce que j'attends, c'est la sortie du grand débat.
Voilà. Mais pensez à tous ceux qui nous écoutent, vous allez plus vite que la musique.
C'est la sortie du grand débat.
Mais il faut qu'il ait lieu d'abord.
Pour moi, il a lieu, il se développe.
Chez vous, comment ça se passe?
J'aime
peu. Attends, vous avez organisé des réunions?
Françoise, ne l'interromps pas tous.
J'ai un peu le sentiment qu'au départ, ce grand débat, c'était les hommes politiques, le président de la République doit écouter les Français. progressivement, c'est en train de se transformer entre les Français doivent écouter le président de la République très longtemps, de façon répétée et de façon multiple. Donc on est déjà un peu dans une inversion de la problématique. Le grand débat, ça devient aussi la grande campagne électorale européenne du président de la République. Donc j'ai une inquiétude sur l'évolution de ce grand débat. Très bien, on débat, c'est naturellement souhaitable, c'est naturellement préférable par rapport à ce que nous voyons dans la rue et ce que je dénonçais tout à l'heure. Il vaut mieux être dans une salle, exprimer ses convictions, oui, que casser dans la rue, naturellement. Mais attention, là où je mets en garde, c'est à la sortie de ce grand débat. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit un marché de dupes, une tromperie, qu'on n'ait que des discussions, que des palabres et qu'il n'y ait pas d'action. Ce dont notre pays a besoin, et on va, je l'espère, y revenir.
On va en parler, évidemment, mais vous parlez de la sortie du grand débat avant même qu'il soit terminé.
Ce sont des actions pour répondre à la crise économique et sociale du pays, des actions pour répondre à la crise
identitaire. Vous allez plus vite que la musique.
Sécurité. Oui, mais c'est l'essentiel.
Non, l'essentiel, c'est de vous comprendre. Le reste... Vous dites participer au débat, ne manifestez pas et ne pratiquez plus de manifestations qui risquent de dégénérer de manière violente.
C'est notre
et de l'autre,
position.
Ne débattez pas, ne participez pas au grand débat national.
Vous caricaturez.
Non, j'essaie de comprendre.
Non, mais on voudrait juste comprendre. Concrètement, vous avez organisé des réunions du grand débat national?
Non, personnellement, je n'en ai pas organisé.
Pourquoi pas?
Vous caricaturez complètement ce que j'ai dit.
Ah non, je vous écoute.
Je dis que le président de la République a organisé un grand débat. J'ai des doutes sur ses motivations quand je vois comment ça se passe et sur ce qu'il veut faire de ce grand débat. Mais allez, on le prend au mot. Ceux qui veulent exprimer une opinion, une position, le font dans le cadre de ce grand débat. Je parle de ceux qui manifestent. Après, moi, je suis parlementaire. Et je crois à la démocratie représentative.
Qui est remise en cause aujourd'hui fortement.
J'ai la faiblesse de croire que quand on est parlementaire, cette voix, elle doit s'exprimer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà. Et je dirais même que c'est là où le débat national et législatif
c'est une remise en cause générale des élus. De droite, de gauche, vous avez failli, vous vous en mettez plein les poches, vous ne servez à rien. Ça, quand vous entendez ça, en tant que représentant de la nation, comment vous réagissez? Est-ce que vous fermez les oreilles?
Non, on ne ferme pas les yeux, mais c'est aussi source d'inquiétude, parce que le contraire de ça, c'est quoi? S'il n'y a plus d'élus, c'est la dictature.
Bien sûr.
Est-ce que vous entendez le message? Oui, j'entends le message. Et moi, ce que je veux dire, et vous avez voulu déformer ce que
on a voulu comprendre, Éric Ciotti.
La réponse à cette colère que naturellement j'entends et qui est importante, qui est ancienne, mais qui se développe. La réponse à cette situation, c'est l'action pour donner des résultats. Ce que veulent les Français, ce sont des résultats. S'ils ne croient plus en la politique ou en la parole publique, c'est d'abord parce que beaucoup d'hommes politiques ont eu une attitude très fluctuante, très changeante, et surtout parce qu'ils ont le sentiment, aujourd'hui, d'une forme d'impuissance. On a un discours avant les élections, séducteur, comme a pu l'avoir le président Macron, et puis après... On a des actes totalement impuissants. On a eu cette séduction En Marche. Et aujourd'hui, les Français se sont aperçus que En Marche, c'était l'immobilisme. C'est paradoxal parce que ce sont deux mouvements contradictoires. Normalement, quand on marche, on n'est pas immobile. Eh bien, En Marche, ça a conduit à l'immobilisme. Et c'est pour cela qu'il y a cette colère. Donc, quand on est responsable politique, aujourd'hui, moi, ce que je veux dénoncer, parce que c'est aussi la source de ces mots, c'est l'illusion de la communication, l'illusion permanente des slogans qui masquent la réalité. Moi, je propose le courage de l'action. S'attaquer aux racines du mal, s'attaquer à la pression fiscale, à la dépense publique, faire en sorte que notre pays devienne compétitif, pour qu'il y ait moins de chômage, pour qu'il y ait plus de pouvoir d'achat. Ça prendra pas quelques semaines, ça prendra des années. Mais si on ne commence pas un jour, si on ne dit pas la vérité aux Français sur la gravité de la situation, sur le fait qu'on est aujourd'hui quasiment le pays le plus endetté d'Europe, qu'on a les déficits parmi les plus élevés et que donc on a aussi le taux chômage le plus élevé, on s'en sortira pas.
François Fillon le disait.
Français, François Fillon, vous avez raison, il le disait mot pour mot.
Et c'était les Français n'ont pas voté pour lui.
Oui, sans doute, malheureusement, pour d'autres raisons. Mais moi, je ne me renie pas. Je considère que le projet de François Fillon et le diagnostic de François Fillon étaient les bons pour notre pays. Et vous savez, ce n'est pas l'illusion qui réglera les problèmes.
En tout cas, le slogan. On va en reparler. Karine, mais Jeff, vous parlez de la démocratie représentative à laquelle vous participez en tant qu'élu. Vous en faites partie intégrante. Mais on a l'impression que vous l'opposez à la démocratie délibérative, la démocratie citoyenne, chacun prenant son compte du débat citoyen. Les deux ne sont pas antinomiques, les deux peuvent fonctionner ensemble.
Vous avez raison, mais dans une
démocratie... On a le sentiment que vous n'avez pas envie de trop de délibération.
Dans une démocratie, il y a un acte fondateur, c'est l'élection. Voilà, l'élection en France majeure,
d'Emmanuel Macron.
C'est l'élection du président de la République.
Emmanuel Macron.
Et l'élection des parlementaires. C'est l'élection législative. C'est la démocratie.
Et donc d'une majorité, La République en marche.
Mais bien sûr, mais c'est la réalité de ce pouvoir. Si demain ça doit changer, c'est l'élection qui doit le modifier.
Donc il faut attendre pendant 5 ans.
Toutes les autres
citoyens
voies,
pendant ce temps-là n'ont pas le droit de parler.
Je mets à part le référendum qui doit retrouver sa place telle que l'avait voulu le général de Gaulle au cœur des institutions de la Ve République. Après, il doit y avoir des modes d'écoute, de dialogue plus permanent. Bien entendu, on est dans un monde qui évolue, je ne l'ignore pas. Il y a aussi cette communication sur les réseaux sociaux. Il y a des vecteurs qui doivent être utilisés pour mieux écouter en permanence les Français. Mais à un moment, ceux qui ont la capacité à décider, ce sont ceux qui ont été élus par le peuple.
Donc Emmanuel Macron et la République en marche majoritaire à l'Assemblée nationale.
Je ne connais pas d'autre voie que la voie de l'élection. Si vous avez d'autres propositions, d'autres modèles, après, moi ce que je dis, c'est que la politique est conduite aujourd'hui, d'abord, elle est contraire à l'illusion qu'avait entretenue Emmanuel Macron, qui quelque part a abusé les Français, et aujourd'hui, il faut qu'il change de politique, c'est ce que nous lui demandons.
Ça, on l'a entendu. Question de Jeff, puis votre portrait.
Monsieur Ciotti, c'est pas mal joué. Vous auriez fait quoi, vous, à la place du gouvernement, au plus fort de la crise en décembre, si Monsieur Fillon avait été élu? On voit que les Français participent en masse à ce débat, que les retransmissions sur les chaînes infos sont massivement suivies, et que le président regagne des points. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, quelque part, il a eu le nez creux en faisant ces débats ou non?
Peut-être, mais dans votre question, il y a un mot qui m'interpelle, c'est est-ce que c'est pas mal joué? Voilà. Mais ça veut dire qu'en permanence, on joue. En permanence, il y a un calcul politique. Il y a une arrière-pensée tactique.
Alors, est-ce que ce n'était pas une bonne façon de sortir de la crise ?
Et là, on est dans la tactique, on n'est pas dans le fond. Moi, je suis convaincu que les Français sont un peuple qui, aujourd'hui, attend des résultats et qu'il faut agir. Et qu'on ne doit pas se contenter simplement de l'illusion de la communication. Si le débat, c'est tactique, c'est joué, alors ça sera un échec.
On n'en connaît pas la fin, mais peut-être êtes-vous devant l'élection.
L'enjeu est là, c'est la fin de ce débat. Comment on en sort? On ne peut pas y rester en permanence. Quelles sont les mesures qui sont proposées? Quelles sont les décisions? Est-ce qu'enfin, on baisse les dépenses publiques pour baisser les impôts? Parce qu'au départ, ce qui met le feu,
ne refaisons pas l'histoire.
C'est les impôts, ce sont la hausse des taxes. Donc, est-ce qu'on inverse ça ou pas? La réalité, elle est là, il n'y a pas d'autre question.
Le député Les Républicains, LR, ça commence comme LREM, mais Les Républicains, c'est très différent.
Je n'ai pas l'intention de changer.
Vous, non, d'autres de votre camp ont cédé à la tentation. Le député LR, Éric Ciotti, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Et votre portrait, Éric Ciotti, où l'on verra que vous n'êtes vraiment pas La République en marche. Portrait signé Karine Bécard.
Éric Ciotti, vous êtes un méthodique. Pendant 30 ans, inlassablement, vous avez pris soin de tisser votre toile politique. Ce qui vous fait dire aujourd'hui que vous ne devez plus rien à personne, mais pendant longtemps, Éric Ciotti, vous n'avez pas osé avancer tout seul. Pendant 19 ans, exactement, vous êtes resté caché derrière Christian Estrosi, vous avez observé et vous avez appris. Jeune diplômé de Sciences Po, vous êtes devenu d'abord son assistant puisqu'il était député et de 10 ans votre aîné. Ensuite, il a été nommé ministre. Il vous a donc installé à une place de conseiller et puis vous l'avez suivi partout, tout le temps, à la région comme au département, irrémédiablement d'accord pour rester dans l'ombre de votre mentor. un mentor bien plus charismatique que vous, bien plus charmeur, quand vous, vous étiez réputé pour être le bosseur. Et vous avez patienté, Éric Ciotti, avant d'être en quelque sorte autorisé, à 42 ans, à devenir député.
Ah Éric, ça fait pas un beau jour, tu sais. J'ai tellement espéré.
Merci pour
voilà,
toi.
Quelqu'un merci. Qui merci. Va c'est représenter à... dignement la ville de Nice, les toi. Alpes-Maritimes.
C'est à toi que je le dois.
C'est à toi que je le dois. Voilà ce que vous lui dites. En réalité, vous lui devrez aussi la présidence de votre département, les Alpes-Maritimes, l'année suivante, en 2008. Sauf qu'à partir de là, Éric Ciotti, vous avez commencé à vous distancer de Christian Zestrosi. Désormais, à l'Assemblée, vous préférez vous afficher comme un pur sarkozyste, jusqu'à ce que vous deveniez un filloniste, à dire vrai, plutôt par choix tactique, et puis aujourd'hui, légitimiste, vous vous êtes rangé derrière Laurent Wauquiez. Certes, mais en réalité, jamais vous n'avez cessé de défendre la même ligne directrice, cette droite dure qui vous a presque physiquement façonné, sur laquelle vous avez absolument tout misé et qui vous a aussi permis très vite, dans l'hémicycle, de pouvoir exister.
Monsieur le ministre de l'Intérieur vient de démontrer sa fébrilité face aux résultats de l'insécurité au mois d'octobre. Face à la fièvre, il faut casser le thermomètre. Ce n'est pas une réponse que les Français pourront accepter.
Novembre 2012, vous n'entamez là que votre deuxième mandat. Et déjà, pour la place Beauvau, vous vous montrez décidé, vous vous sentez préparé, vous vous estimez tout à fait en capacité. Seulement, si vous avez espéré vraiment un destin national, aujourd'hui, Éric Ciotti, vous semblez tout à coup préférer la politique locale pour arracher visiblement la mairie de Nice à Christian Estrosi avec lequel vous êtes fâché. Autrement dit, le méthodique monsieur Ciotti aurait changé radicalement ses plans à 53 ans.
Réaction Éric Ciotti.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup qui, je crois, éloignent un peu de la réalité de mon action quotidienne. Je retiendrai un point, vous allez dire il est positif, c'est celui de ne pas avoir changé d'attitude. Voilà, on est dans un monde où, on le rappelait il y a quelques instants, beaucoup au gré des circonstances, des sondages, varient dans leurs valeurs, dans leurs opinions, dans leurs références.
Vous pensez à Laurent Wauquiez ?
Dans leur soutien. Non, c'est pas à lui que je pense. Parce que Laurent Wauquiez n'a pas changé d'attitude, mais au contraire, il défend toujours les mêmes convictions et les mêmes idées. Et depuis que je suis parlementaire, et mon premier mandat date de 2007, je me suis tout de suite rapproché de Laurent Wauquiez parce que c'était sur un sujet essentiel. C'était sur le sujet, notamment, de la défense des classes moyennes et le fait de lutter contre une forme d'assistanat permanent. Il proposait notamment de donner une contrepartie au RSA. Donc, vous voyez, ça fait un certain nombre d'années que nous n'avons pas changé. Mais moi, je revendique cet engagement, cette fidélité à des convictions. Voilà, il y a deux périodes dans ma vie. Vous avez dit, je suis resté 20 ans caché. Non, 20 ans, j'étais collaborateur. J'ai servi d'autres élus. Vous auriez pu le rappeler. J'ai travaillé avec Jean-Claude Gaudin au conseil régional, à la mairie de Marseille. J'ai eu l'honneur de participer à des campagnes.
Vous n'étiez pas dans la lumière tout de même à ce moment-là.
Non, mais c'était pas ma vocation. En 2017, j'ai été élu parlementaire avec le soutien de Christian Estrosi. Je le dis, je le redis. Aujourd'hui, comme la dernière fois, j'ai été élu avec l'opposition de Christian Estrosi. Ça, vous aurez pu le souligner, puisqu'il a soutenu.
Je savais que vous alliez le dire.
Il a soutenu. Aujourd'hui, vous savez, mon adversaire du printemps 2017 est à son cabinet. Donc, on a un peu inversé les rôles. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, je défends toujours les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et je suis élu de Nice et je veux aussi apporter le meilleur à ma ville. Mais voilà, je crois que à l'Assemblée
nationale, une déclaration de candidature.
À l'Assemblée nationale, j'ai porté encore cette semaine sur la question du drapeau à l'école.
On va en parler.
J'ai porté toujours avec constance des textes et j'ai la faiblesse de croire que ces valeurs sont de plus en plus importante et les défendre avec une forme de fidélité,
à Nice,
ça me paraît
à
important.
La
Nice, aujourd'hui,
candidat ou pas ?
Je répondrai à cette question. Je l'ai dit dans quelques mois, c'est une question importante. Est-ce que comment je dois
bon,
et
on
je
entend
peux,
oui
et je peux comment je dois et je peux servir ma ville. Je le fais sur la base d'un diagnostic. Il y a pour cette cité qui m'a vu naître, qui est magnifique, qui est belle.
Je
l'ai déclaration d'amour. Pour...
Je l'ai quitté. On pourrait entendre Benjamin Griveaux ou Mounir Majoubi parler de Paris.
Non. Je l'ai quitté ce matin pour vous rejoindre, mais il y a des forces et des faiblesses, il y a des difficultés,
pas de langue de bois, Éric Ciotti. Très sincèrement, vous reprochez à vos opposants de pratiquer leur langue de bois et notamment à tous ces candidats qui ne sont pas déclarés mais qui sont en vérité candidats aux prochaines municipales à Paris. Vous n'allez pas faire comme les cadres de La République En Marche. Vous êtes candidat à la mairie de Nice.
C'est bien tenté, Ali.
J'apprécie votre talent de conviction, mais ce n'est pas à vous que je répondrai à cette question.
Ah, mais c'est pas à moi, c'est aux auditeurs qui se posent la question.
Et en premier, et naturellement, cette question, j'y répondrai d'abord devant les Niçois. Moi, seule démarche qui me guide, c'est comment servir ma ville.
Ils sont derrière leur poste.
Comment faire en sorte... J'ai posé notamment, lors de la présentation de mes vœux à Nice en début d'année devant plusieurs milliers de Niçois, une question à Christian Estrosi, c'était celle d'annuler son augmentation fiscale. Nice est la plus grande ville de France où les impôts ont le plus progressé.
Bon, vous ne voulez pas répondre à la question.
Nice est la seule grande ville de France, avec Paris, où la population a diminué. Il y a des difficultés. J'ai souhaité poser des propositions, les porter pour que les choses...
Vous avez des propositions.
Nous verrons. D'un mot, on va tourner la page de Nice. Voilà, tournons la page de Nice, parlons quand même malgré tout de l'engagement municipal. Un homme qui a été identifié à sa ville, qui l'a aimé, qui était dans votre camp, il s'appelle Alain Juppé, qui quitte Bordeaux, qui a prononcé des adieux déchirants, la voix pleine d'émotion cette semaine à ses administrés. Il va manquer aux Républicains, il quitte la politique. Il va manquer aux Républicains et à votre camp à la droite, Alain Juppé.
Moi, je crois qu'il avait déjà quitté les Républicains.
Ah bon?
D'ailleurs,
ou à la droite.
Il avait dit il y a quelques semaines.
Il n'avait pas renouvelé sa cotisation. Mais
donc,
il n'était pas parti ailleurs.
De fait, depuis l'élection, sa défaite à l'élection primaire, qui a été très rude pour lui. Et voilà, il a pris du champ avec notre famille politique. Il en a pris encore plus après l'élection d'Emmanuel Macron. Vous savez, moi, j'ai du respect pour Alain Juppé.
Donc, il ne va pas manquer à la droite.
Vous rappeliez mon parcours. J'ai adhéré au RPR, c'était en 86. J'avais 16 ans. Ouais. Alain Juppé était la principale personnalité aux côtés de Jacques Chirac.
Il a fondé l'UMP.
J'ai plus aimé, d'ailleurs, cet Alain Juppé dans son parcours du début au sein du RPR, avec des convictions fortes, que la dernière partie dans le soutien quasi systématique.
Donc il ne manquera pas la droite.
En marche. En tout cas, moi, je lui souhaite, c'est une grande personnalité, c'est un homme d'État. Sa place est légitime au Conseil constitutionnel. Il a fait un choix, je le respecte.
Mais monsieur Sotti, quand vous voyez ce qui s'est passé en France, l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous n'avez pas un regret en disant finalement si la droite avait soutenu Alain Juppé, c'est lui qui serait au pouvoir aujourd'hui, et au fond la droite serait au pouvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un regret, finalement? Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trompé de candidat?
C'est peut-être Alain Juppé qui s'est trompé de campagne aussi, parce que pendant 2 ans, il a été en tête de toutes les intentions de vote, et puis il a fait une campagne qui était contraire à ce qu'attendaient les électeurs de la droite et du centre dans notre pays, notamment avec cette question de l'identité heureuse que beaucoup de nos électeurs n'ont pas compris. D'ailleurs, dans son camp, certains ont estimé que c'était la cause de son échec. Voilà, c'est sans doute un rendez-vous manqué, mais au-delà du rendez-vous manqué pour Alain Juppé, c'est le rendez-vous manqué de l'élection présidentielle.
Mais je veux dire, c'est le fait qu'il n'ait pas été élu, est-ce que c'est pas pour la droite le signe qu'au fond, elle est pour des années dans l'opposition, parce que incapable de se rassembler?
Dans l'élection primaire, ça ne vous a pas échappé, vous l'avez rappelé dans le portrait, j'ai choisi et j'ai soutenu au premier tour Nicolas Sarkozy, et au second, puisque Nicolas Sarkozy malheureusement a été éliminé du premier tour, j'ai soutenu François Fillon face à Alain Juppé. Donc je ne vais pas exprimer aujourd'hui des regrets, parce que je considérais que l'un et l'autre exprimaient une position qui revendiquait à la fois sur les questions économiques, avec un programme remarquable de François Fillon, également sur les questions régaliennes, avec un programme
remarquable de Nicolas Sarkozy, de la droite.
Des positions qui étaient, qui feraient que si elles étaient appliquées aujourd'hui, notre pays se porterait mieux. Voilà.
Mais les Français ont voté.
Est-ce qu'il n'y a pas l'histoire, vous avez raison.
Non. Monsieur Ciotti, Jeff Wittenberg.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'électeurs et de sympathisants de la droite qui sont comme Alain Juppé, qui sont aujourd'hui à l'aise avec la politique d'Emmanuel Macron? C'est d'ailleurs la même chose pour des électeurs de centre-gauche qui votaient pour le PS. Est-ce que votre espace politique n'est pas durablement réduit par la politique d'Emmanuel Macron qui attire vos électeurs? Il faut en être conscient, une partie de vos électeurs en tout cas.
Éric Ciotti.
Qu'il y ait eu une attraction et qu'elle puisse encore.
Mais qui est toujours là, quand on voit les enquêtes d'opinion.
De façon plus modérée qu'au printemps 2017, naturellement, vous avez raison de le souligner. Cela a été favorisé, entretenu notamment par des démarches de débauchage individuel, le fait que le Premier ministre vienne des Républicains, que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire trahissent quelque part un peu leurs convictions pour rejoindre La République En Marche. Ça a participé de ce mouvement de débauche individuelle.
Mais ce sont des traîtres.
En tout cas, ils ont tourné le dos à leurs convictions. Entre Bruno Le Maire, qui était, on reparle de la primaire, excusez-moi, portait une mesure essentielle dans la primaire, c'était la baisse de la CSG. Il a été le ministre de l'économie qui a fait augmenter la CSG de 25%. Je ne peux pas dire que c'est une démarche de conviction. Mais peu importe. Aujourd'hui, quel est aujourd'hui le chemin de notre famille politique? C'est d'être et d'incarner la seule force d'alternance crédible. Moi, je dénonce le bilan d'Emmanuel Macron. On a la situation dans le pays qui est une situation de tension, mais on a surtout des résultats économiques qui sont très éloignés de ce qu'avaient espéré les Français et de ce qu'avaient espéré, cru une partie de nos électeurs. Donc, il y a de la désillusion.
Mais alors, pourquoi Laurent Wauquiez est-il inaudible, puisqu'il dit ça depuis maintenant l'élection d'Emmanuel Macron?
Enfin, depuis son élection à lui.
Non, il a déjà dénoncé les résultats de la politique d'Emmanuel Macron le jour de son élection.
Nous verrons s'il est inaudible au moment de l'élection.
Et avec qui on
joue?
Je reviens à ma conviction. Voilà. Il y a le jugement en démocratie, c'est pas les médias, c'est pas les sondages,
ça existe malgré tout.
La rue, ce sont les électeurs. Donc on comptera et on fera le bilan
en 2022, quand Laurent Wauquiez sera candidat.
Au bout du parcours, lui ou un autre, on fera le bilan sur la place de notre famille politique. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez a reconstruit notre famille politique. Il a été élu.
Il ne fait pas l'unanimité, y compris chez vous avec Valérie Pécresse.
Qui fait l'unanimité? Parce que si demain il y avait Valérie Pécresse à sa place, vous croyez qu'elle ferait l'unanimité?
Non, mais c'est embêtant d'avoir des leaders qui se contredisent.
Personne. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être crédible. C'est croire aux mêmes idées. C'est les défendre. C'est avancer. C'est apporter des réponses. Voilà. Des réponses, des actes. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, il y a l'illusion Macron qui n'a rien amené de bon pour le pays. Et il y a, de l'autre côté, les extrêmes qui n'ont plus, bien entendu, qui peut croire que M. Mélenchon ou Mme Le Pen pourraient être demain un président de la République utile, efficace pour la France.
Alors, attendez, Éric Ciotti.
Il y a un chemin au milieu. Il n'y en a pas deux. C'est celui qu'incarne les Républicains.
Le chemin au milieu, il est quand même compliqué.
Karine,
parce que vous avez voté
les ordonnances. Des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît.
OK. Vous avez voté les ordonnances travail. Vous êtes favorable aux heures supplémentaires défiscalisées que Macron a décidé de mettre en place lui aussi.
Il s'en est inspiré chez nous.
Vous reprenez la loi. Vous reprenez la loi anti-casseurs. Il a repris votre loi anti-casseurs. Il est d'accord pour mettre des drapeaux dans les écoles. Le Premier ministre qui parle d'aide sociale, qu'il va falloir organiser des contreparties. Enfin, je veux dire, il est vraiment sur le créneau de la droite. Quelle est votre ligne aujourd'hui et comment réussir à exister?
Éric Ciotti.
Là encore, je reviens à ce qui pour moi est essentiel. Il y a un énorme écart entre le discours du président de la République ou celui désormais de son Premier ministre qui s'aventure un peu sur le même terrain et les actes. Et les actes, vous parlez de la loi anti-casseurs, ça fait 14 semaines que le gouvernement est incapable d'éradiquer la violence. Il est allé chercher une proposition de loi de Bruno Retailleau et des sénateurs, qui avait été auparavant vouée aux gémonies par le même gouvernement.
Donc, elle a été votée.
Comme bouée de secours.
Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Mais elle n'est malheureusement pas appliquée. Si on avait eu une attitude beaucoup plus ferme, je reviens sur la question de l'état d'urgence, on n'en serait pas là. Au plan économique, la loi travail, Qu'est-ce que ça a changé de fondamental?
Vous n'avez pas le sentiment d'être inspiré?
Est-ce qu'on a engagé la réforme des retraites qui était au cœur du projet de François Fillon?
Oui, mais elle n'est pas arrêtée.
Au cours de ces deux ans, ça fait deux ans, Françoise Frézos, deux ans inutiles, est-ce qu'on a engagé la réforme du temps de travail dans le cadre de la loi travail? Non. Donc les sujets les plus difficiles, les plus complexes, ils ont été mis sous le tapis.
Est-ce que vous reconnaissez que dans cette période difficile pour le gouvernement, il fait des gestes vers la droite, et est-ce que vous êtes séduit par ces gestes? Votre amendement a été retenu, donc il y aura des drapeaux français européens dans chaque salle de classe.
Enfin, vous, c'est des drapeaux français,
bravo,
on a rajouté l'européen.
Bravo.
Mais moi, j'ai porté cet amendement. Je me réjouis que Jean-Michel Blanquer y ait été favorable. Il y a d'autres sujets que j'ai portés qui, manifestement, ont soulevé des débats entre Jean-Michel Blanquer et la majorité. Et là, pour le coup, c'est la majorité qui
est quand même très à gauche. Non, mais restons sur ce sujet. Le drapeau français dans les classes, qui pour vous était une manière, pour les enfants, j'imagine, d'aimer, davantage
aimer
leur pays.
De faire aimer la nation, de faire aimer notre roman national, de rappeler
ça a été voté,
la force
et ce sera appliqué.
Des couleurs de notre pays.
Tous les
pays.
Enfants de France remercieront Éric Ciotti en regardant le drapeau quand ils rentreront en classe.
Je l'espère, en tout cas, je sais pas.
La droite, on a rêvé, et c'est Macron qui l'a fait.
J'espère pas qu'il remercie Éric Ciotti.
Si, si, ils remercieront Éric Ciotti, vous en êtes à l'origine.
Que ce symbole leur permettra d'avoir conscience qu'ils sont dans un grand pays, qui a une histoire,
à propos de symbole,
qui a des valeurs. Vous savez pourquoi cette
pourquoi
idée...
Pourquoi bleu, blanc, rouge?
Ce débat, on l'a eu dans l'hémicycle. C'est la fusion de plusieurs démarches, de plusieurs drapeaux. Mais la révolution de 1848, c'était le combat entre le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Et j'ai entendu l'autre fois dans l'hémicycle des députés qui s'opposaient au drapeau tricolore. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que, vous vous rappelez, après les attentats contre Charlie Hebdo, 7 janvier 2015, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque demande dans toutes les écoles, dans tous les lycées, les collèges, d'observer une minute de silence. Et là, on s'aperçoit avec stupéfaction qu'il y a des milliers d'incidents qui font que des élèves, aujourd'hui, enfin c'était hier, refuse
vous l'avez dit
d'observer
dans l'hémicycle,
cette
ça
minute
a été repris,
de silence. Donc aujourd'hui,
c'était pas la question,
moi,
c'était sur le symbole bleu blanc rouge.
Qu'il y a
pourquoi
cette volonté, le symbole bleu blanc rouge, c'est la monarchie, c'est la République, c'est l'histoire de France dans sa diversité, une histoire qui est ancienne,
Paris,
qui, comme le disait le général de Gaulle,
la monarchie
vient
et Paris
du fond des âges et qu'il faut rappeler à nos enfants pour qu'ils aient ce modèle. Alors que le gouvernement, en tout cas que le ministre de l'Éducation nationale et souhaité soutenir cet amendement, naturellement, je m'en réjouis.
Mais il y a
est-ce
un petit côté,
c'est,
la droite l'espérait,
c'est
et
le
c'est Macron qui le fait.
Est-ce que c'est
donc
le,
ça séduit votre électorat.
C'est pas Macron qui l'a fait,
en l'occurrence, la République en Marche.
C'est l'Assemblée nationale
et donc,
la sur la proposition des Républicains.
Et la Marseillaise
nous sommes dans des propositions.
Grâce à Éric Ciotti, tous les enfants de France apprendront la Marseillaise, ils auront les paroles de la Marseillaise sous les yeux quand ils entreront en classe.
Ils pouvaient déjà l'apprendre, c'était dans une circulaire. Mais désormais,
puisque Jean-Pierre Chevènement l'avait
paroles,
souhaité dès 1985.
Vous avez raison, les paroles seront affichées dans les classes. Ces symboles de la cohésion nationale.
Vous les connaissez
nationale,
les paroles
les, bien sûr.
Ces on connaît tous le premier couplet, on connaît le refrain.
Sur le sang impur.
Ça c'est le refrain
que vous
qu'un sang impur
abreuve
nos sillons. Non,
question.
Quelle est la suite
hein?
C'est quoi la suite?
Sur... Je ne vais pas vous chanter ici la
Non, mais vous pouvez dire les paroles. Deuxième couplet de la Marseillaise.
Sur la Marseillaise, je ne vais pas vous chanter ici la Marseillaise.
Ah, mais vous pourrez la chanter, moi je n'ai aucun problème pour la chanter. On connaît tous le premier couplet, Allons enfants de la patrie, qui se termine par égorger vos fils et vos compagnes. Et le refrain, que tout le monde connaît, qu'un sang impur abreuve vos sillons. Et le deuxième couplet
hein, marchons, c'est ça qui vous,
ah non, pas du
qui
tout.
Vous motive.
Vous entrerons dans la carrière.
Non.
Ben allez-y, posez votre question.
Ben vous ne connaissez pas les paroles de la Marseillaise.
Oh là là.
Le deuxième couplet, que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Ça continue, il y a 7 couplets à la Marseillaise. Donc les enfants devront apprendre
on restera,
la Marseillaise et ils seront des meilleurs
dans
Français.
La version première.
Ah mais c'est la version première, c'est celle qui est sur le site de l'Élysée.
Oui.
On passe aux européennes, parce que
allons-y.
Je vois que le temps file. Vous avez fait le choix de François-Xavier Bellamy pour être la tête de liste aux élections européennes. Est-ce que c'est un pari politique que vous comprenez, que vous partagez? Vous êtes le président de la Commission
Bien
nationale
sûr.
Des investitures.
Bien sûr,
est-ce que c'est la
bonne idée? C'est un choix qui est pertinent, c'est un choix qui marque une volonté de renouvellement. de renouvellement qui marque aussi le souhait de notre famille politique d'exprimer des idées, des convictions. C'est quelqu'un qui a un parcours de convictions qui est solide et qui marque, je crois, avec ceux qui l'entourent dans cette candidature, que ce soit Arnaud Danjean ou Agnès Evren, eh bien, c'est cette volonté de marier l'expérience et le renouvellement.
Et donc, on est sur quelle ligne politique? Parce que c'est une ligne très conservatrice, malgré tout, qu'il défend François-Xavier Bellamy.
C'est une ligne qui marque, au plan économique, une volonté de réforme forte, de valorisation du travail, du mérite, de l'effort. C'est une ligne qui souhaite que l'Europe soit moins naïve. Quand on voit ce qui s'est passé notamment dans le cadre de l'alliance Alstom-Siemens qui marque finalement le fait que cette Europe, face à la mondialisation, elle est trop fragile, elle ne s'assume pas fortement, totalement. C'est aussi une liste qui marque notre volonté de réaffirmer une identité, une culture française. Nous revendiquons qu'il y ait cette identité. Cette identité chrétienne, elle participe de la civilisation européenne.
Donc il ne doit pas mettre sa foi entre parenthèses.
Dont nous sommes les héritiers. Ce n'est pas une question de foi, justement. Et c'est là où vous faites une erreur. C'est une question de culture. Nous sommes les héritiers d'une civilisation, d'une culture qui revendique cette pérennité, cette permanence.
Françoise.
L'étonnement sur cette campagne, c'est qu'au fond, c'est la première importante après l'élection d'Emmanuel Macron et on se demande pourquoi c'est pas Laurent Wauquiez qui est à la tête de cette liste pour défendre les couleurs des Républicains. Est-ce que vous vous sentez trop faible aujourd'hui pour combattre la ligne d'Emmanuel Macron ?
Éric Ciotti.
Sûrement pas. Laurent Wauquiez avait pris un engagement, vous en rappelez. Il a été élu lors des élections régionales de 2015 dans un combat difficile. Il a gagné une région à gauche. Il a été opposé au second tour à la fois à la liste socialiste et à la liste du Front National. Donc il a gagné en triangulaire, à la loyale, avec force, parce qu'il avait des convictions, parce qu'il avait un bulletin. Et il s'est engagé à siéger à la tête de cette région. Et tout à l'heure,
général emmène ses troupes.
Quand vous évoquiez
Nicolas Sarkozy, admirez, avait emmené les troupes,
quand vous évoquiez cette perte de crédibilité des élus, quand on prend un engagement, eh bien, Laurent Wauquiez, quand il a pris un engagement, il a respecté. C'est tout à son honneur. Il sera très actif, bien entendu, dans cette campagne, et c'est lui qui emmènera au combat et qui nous amènera à la victoire.
N'assumera pas la défaite.
Vous savez, vous serez bien placé s'il y a des difficultés pour lui en faire porter.
À partir de quel score
le fardeau. Je vous fais confiance là-dessus.
Quel score faudra-t-il faire?
Laurent Wauquiez, il sera en première ligne.
Quel score devra faire les Républicains, la liste des Républicains?
Le meilleur.
Mais
c'est une réponse qui ne vous satisfera pas. Mais nous sommes engagés. Nous sommes engagés, donc naturellement, nous avons d'autres espoirs. Je ne vais pas vous fixer une barre aujourd'hui.
Sur Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, il y a quand même manifestement un problème d'adhésion, même au sein de son propre électorat, l'électorat de droite. On voit que ces cotes de popularité que vous devez forcément malgré tout observer ont du mal à décoller. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème, Wauquiez, que finalement ça ne prend pas en fait autour de ce président de ce parti, les Républicains?
Je vous offrirai la même réponse que précédemment.
C'est pas grave.
C'est pas aujourd'hui que l'on juge. C'est pas sur la foi d'une évolution d'une
courbe. C'est en 2022. Vous avez répondu tout à l'heure.
On a des étapes. On reconstruit le parti. On a failli disparaître.
Mais vous êtes pas
inquiet. La dernière question à Jeff Wittenberg qui demande la parole depuis tout à l'heure.
François-Xavier Bellamy juste défend des positions sur l'IVG, sur le mariage pour tous. Est-ce que si on est électeur de droite et qu'on est pour l'IVG et pour le mariage homosexuel, on peut voter sans
secondes.
État d'âme pour François-Xavier Bellamy? Juste.
Il a exprimé des positions d'ailleurs. C'est pas une opposition. Oui, mais on le caricature beaucoup. Sur ces sujets. Il assume des convictions. Et dans la vie politique, assumer des convictions, je crois que c'est aussi ce qu'attendent des électeurs qui veulent du respect pour ce qu'ils sont et pour les élus qui doivent les représenter.
Est-ce que vous irez voir le film de François Ozon, Grâce à Dieu?
Je pourrais aller le voir si... sa publication est autorisée, ce que j'espère. C'est un film qui pose naturellement un débat et j'irai le voir naturellement.
Donc vous êtes contre les associations qui demandent qu'il ne puisse pas être distribué dans les salles?
Il y a un débat juridique, c'est pas que les associations. La motivation, c'est qu'il y a un procès. Et est-ce que le film doit sortir avant ce procès ou pas? C'est à la justice de le dire. Par principe, je suis contre toute forme d'interdiction, mais la justice tranchera.
Merci Eric Ciotti. L'émission se termine. Bon dimanche. Merci à Alexandre Gilardi, à toute l'équipe technique de Question Paul. À la semaine prochaine.